Actu SF, les podcasts.
Bienvenue sur cette conférence sur Frankenstein et Marx. On va essayer de faire une lecture ou une analyse marxiste de l'œuvre de Marx. Plus fort, c'est bon ? Merci. Donc pour ce faire, je suis accompagné de Jeanna Debar, romancière et directrice artistique des Utopiales, de Émeric Sasso, élu à la lecture à la mairie de Nantes et secrétaire départemental du PCF 44, Xavier Mauméjean, écrivain de science-fiction, notamment de La Vénus anatomique, et qui est personne qui a adapté Frankenstein pour France Culture, et Patrick Dundé, écrivain de fantasy plutôt, et de polar. Donc voilà.
De fantasy marxiste.
tu assumes ce titre ? Ouais.
Je crois que. Si, c'est bon ? Ah, là, c'est bon. Merci la Sono. D'auteur de fantasy marxiste, je dirais post-marxiste probablement. Mais bah, je viens d'un bord politique qui était déjà post-marxiste à l'époque de Marx. Donc,
En même temps, là, à notre âge, c'est pas difficile d'être post-marxiste. C'est pas, hein. c'est pas challenge.
On l'est tous.
Frankenstein a 200 ans maintenant. Le livre a été publié en 1818 et a eu un immense impact pour le genre qui nous intéresse, la science-fiction, puisque pour beaucoup, il s'agit de la création de la science-fiction, le moment où une romancière va changer le paradigme du créateur et de la créature, c'est-à-dire que l'un des personnages va créer, grâce à la science, une créature vivante, ce qui était auparavant du domaine du divin. Et derrière, ça va répercuter sur l'ensemble de nos littératures, l'impact que la science et la responsabilité que nous aurons face aux créatures que nous créerons de façon scientifique.
Oui, Marie Shelley, c'est l'irruption de la rationalité dans le récit, qui pourrait être fantastique, mais qui en fait est éminemment rationnelle. C'est ça qui est passionnant, notamment dans Frankenstein. Et c'est ce qui fait d'elle, d'une certaine façon, la fondatrice du genre pour le monde moderne. On ne peut pas passer à côté de Marie Shelley et parler de science-fiction. C'est juste impossible. On ne peut pas prétendre en parler et éviter de parler de cette femme qui a pratiquement créé le genre pour 200 ans derrière elle.
Pour vous, Marie Shelley aussi, pour vous, c'est la base de la science-fiction ou pas du tout ? Non.
Si, je souscris complètement. Et je pensais, pendant que Jeanne repointait effectivement l'importance de Marie Shelley, à une réflexion de Stephen King dans Anatomie de l'horreur qui vient de ressortir concernant Marie Shelley. Il dit que bon, c'est un génie incontestable et un génie jeune, mais c'est un génie femme de son temps. Et donc, on voit ce qui lui manquait du fait de son des contraintes, des limites de son éducation. Et c'est très intéressant aussi l'analyse que fait King d'un génie qui, du fait des préjugés, des contraintes de l'époque, fait qu'il ne peut pas donner sa pleine mesure.
Alors, excuse-moi, Émeric, tu voulais dire quelque chose ? C'est quand même un génie qui a été extrêmement bien élevé, hein, d'abord par un grand écrivain et par une des premières féministes. Donc, c'est vrai qu'elle était contrainte par l'époque, mais malgré tout, elle était libérée, délivrée, hein. Voilà.
Oui, mais par exemple, au même moment, Lady Ada, la fille de Byron, elle a pris de plein fouet ses contraintes alors qu'elle était la fille de Lord Byron. On aurait pu penser que, mais non.
Oui, mais il faut se méfier des pères.
Oui, non, je ne pouvais pas ne pas te laisser la parole, surtout avec ce que je voulais dire. Peut-être commencer par me définir comme un marxiste fantaisiste, pour rester dans la thématique, mais de dire que c'est aussi une manière d'exprimer, si je ne me trompe pas, elle dit qu'elle a eu l'idée de Frankenstein après avoir eu un enfant mort-né ou mort en couche, ou mort très tôt, et c'est aussi le refus de l'injonction faite aux femmes d'être assignées à un rôle de procréation et d'imaginer qu'on peut contester, après plusieurs siècles assez longs de monothéisme, le rôle de créateur et d'aller le contester à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'est ça, le premier titre. Et si on, je crois que cette partie-là est assez centrale, parce que si on se reporte au mythe fondateur et au mythe grec, le prolétaire des dieux, c'est pas Prométhée, c'est Sisyphe, celui qui veut rester sur terre et qui conteste au dieu le droit de lui donner la mort, etc. Là, on est dans le voleur de feu qui donne la technique aux hommes. Donc, on est bien dans cette injonction-là d'opposer la raison à tout ce qui s'approche de la divinité.
Pour commencer, je voulais parler de la thématique du festival. On est sur une thématique cette année autour du corps, et chez Frankenstein, elle est extrêmement importante, puisque le corps de la créature n'est jamais vraiment décrit, mais on y voit uniquement les aspirations de son créateur, et de l'autre côté, les réactions face à ce corps que les gens qui vont l'avoir vont pouvoir avoir. Et du coup, ce corps est créé comme parfait pour celui qui le crée, et pas pour la créature, pour vivre à l'intérieur de ce corps. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme une forme de corps du prolétaire parfait pour un bourgeois, sachant que Victor lui-même vient d'une famille extrêmement bourgeoise, vient d'une famille aisée, et du coup se permet... Est-ce que ça pourrait être une projection de la vision du corps parfait d'un travailleur, d'un point de vue de quelqu'un qui va faire travailler des gens?
Alors, de mon point de vue, le problème de la création du monstre dans Frankenstein, c'est qu'effectivement, il va être construit selon ce que Victor perçoit de ce que doit être un travailleur. C'est-à-dire quelque chose qui évacue complètement l'idée d'esthétique, déjà, pour commencer. Le travailleur n'est pas beau. D'ailleurs, il terrifie tout le monde. Le travailleur n'est pas heureux dans son corps, il souffre. Il n'a pas été créé pour ressentir du plaisir, et quand il en ressent, c'est mal. Alors vous allez me dire que techniquement, au XIXe siècle, dès qu'on ressent la plus petite pointe de plaisir, c'est déjà mal. On a encore des difficultés à se sortir de cette vision du plaisir. Mais là, clairement, dans Frankenstein, le plaisir est refusé au monstre. Et ça, c'est quand même très intéressant du point de vue de la vision du possédant sur le possédé.
Cette vision du corps fait pour le labeur, c'est aussi une vision de déshumanisation du travailleur, c'est-à-dire que son objectif dans une démarche bourgeoise serait uniquement d'être un relais de la machine pour le travail du capital. Est-ce que vous pensez que c'est une vision qu'on peut adonner à cette créature, et surtout, est-ce que c'est une situation qui derrière à présent résonne encore dans les thématiques de SF, avec toutes les problèmes cybernétiques, toutes les questions de cybernétique dans le cyberpunk? On parlait tout à l'heure de Snow Crash de Neil Stephenson, à votre avis?
Moi, j'aurais tendance plutôt, en fait, à penser le monstre comme une métaphore de, enfin, en tout cas, comme, ouais, une sorte de donc c'est une revisitation moderne du mythe du golem, quoi, clairement. Moi, je verrais plutôt ça comme une sorte de métaphore de l'institution, en réalité, davantage peut-être que le, enfin, évidemment. Que vu de l'intérieur, on peut percevoir le monstre comme la représentation du prolétariat. Après, de l'extérieur, justement, on est dans une vision assez mécanique du rôle du monstre, enfin de son fonctionnement. En fait, moi, c'est peut-être plus ça qui m'intéresse.
Alors, pour te répondre sur le golem, il y a quand même un problème avec le mythe du golem. C'est que la mécanisation du golem, le golem maléfique, c'est un truc tardif. La le golem doit y avoir une ligne dans la Bible, peut-être dessus, à la base, mais c'est une création divine. C'est-à-dire que c'est seulement les rabbins parfaitement purs, parfaitement saints, qui créent le golem, normalement, et ils le font en hommage à Dieu. Et c'est bien reçu par Dieu. Alors que dans Frankenstein, non seulement il n'y a pas d'hommage, et c'est une rivalité. On a changé complètement ce paradigme.
Oui, on est dans une lecture matérialiste du mythe, en fait, finalement.
Tout à fait, mais pourquoi, lorsqu'on arrive au rationnel et au matérialiste, pourquoi, du coup, lorsqu'on se place en position d'égalité par rapport à Dieu, pourquoi est-ce que ça devient mauvais ? C'est une vraie question. Il n'y a aucune raison que dans une perspective matérialiste, lorsque l'homme prend de l'ascendant sur lui-même, sur sa créativité, sur ce qu'il est, il n'y a aucune raison que ça devienne mal. Puisqu'on n'est plus dans une perspective divine.
Non, c'est une vraie question d'abord. Moi j'ai un problème avec le parallèle bourgeoisie-prolétariat. Parce que tout marxiste fantaisiste que je suis, le prolétariat n'est pas une création de la bourgeoisie, c'est le rapport de force productive, de force sociale. Donc c'est pas... Alors après, il y a la question de la représentation. Et de ce point de vue-là, la représentation par la domination, on essaye de créer un monstre qu'on peut dominer, et qui très rapidement s'émancipe. S'émancipe parce qu'il dit qu'il refuse le désespoir, il s'émancipe parce qu'il veut lui aussi connaître l'amour, donc il va travailler à s'émanciper. C'est sûr que cette représentation, on l'a tout au cours du 19e siècle, qui est un siècle finalement très moraliste, hein, après les Lumières, la Révolution française, etc. Mais on a des représentations du travailleur qui est forcément alcoolique, qui effectivement n'est pas beau, jusque d'ailleurs dans certains passages de Zola dans Germinal. Hein, donc le travailleur est alcoolique, il n'est pas beau, on fait des campagnes pour le prévenir... De l'alcoolisme, on le désigne plus tard avec le couteau entre les dents et jusqu'à dire plutôt Hitler que le Front Populaire. Mais il y a toute cette représentation-là, en effet, une contre-représentation qui va s'exprimer de manière parfois caricaturale et outrancière dans le stakhanovisme, c'est-à-dire le travailleur héroïque qui est assigné, toujours dans cette représentation voulue positive, à l'unique rôle de production. Plus tu produis, plus t'es le meilleur. Quoi. Voilà. On voit bien que ce paradigme aujourd'hui est plus le bon.
Oui, mais celui-là, il est beau. Lorsqu'on voit l'homme de marbre, par exemple, c'est un magnifique travailleur.
C'est une anti-représentation.
Mais
c'est un
travailleur. Mais il est encore d'actualité. Et quand tu dis que la bourgeoisie ne crée pas le corps du prolétaire ou le prolétariat, bien entendu que c'est issu de l'ensemble des rapports de production, mais par contre, comme le montrent les travaux des sociologues Pinson-Charlot, etc., le corps est impacté par notre situation sociale, et du coup savoir représenter le beau est toujours une question aussi de domination. Le corps du beau est le corps du riche est le corps du beau, et derrière la représentation du corps du travailleur va forcément être dégradée.
Pensons à cette merveilleuse phrase de quelqu'un que je ne nommerai pas ici, je n'ai pas envie, les sans-dents. Là, il y a une vision du prolétaire, un mépris du prolétaire de la caste bourgeoise qui est abominable. Et qui reflète une réalité, c'est que notre économie crée des gens, des corps de gens particuliers, suivant leur accès aux soins, leur accès à la culture, leur accès aux loisirs, leur possibilité de repos. Reconstituer la force de travail n'est pas autorisé pour tout le monde. Et par conséquent, on a des vies écourtées, déjà, là, maintenant, et depuis le 19e siècle.
Oui, puis sans aller chercher jusqu'à ces, des propos insultants comme ceux que tu viens de le citer, mais regardez le cinéma, hein, on a une surreprésentation des catégories supérieures au cinéma. On va voir une comédie, le mec il est avocat, voilà, bon, y a des catégories comme ça, et quand on parle de travailleurs, on a des drames avec Vincent Lindon, et des films tristes à chialer, avec des morts à la fin, et donc une, même si c'est parfois d'excellents films, mais c'est assez rare finalement. Des comédies, un truc où on va rigoler sans se moquer des gens du peuple.
Puis dans Frankenstein, il y a un autre personnage que, hélas, on oublie un peu souvent, qui est Justine Moritz, la servante qui a grandi avec Elisabeth Lavanza, donc la fiancée de Victor. Donc c'est une domestique, mais elle est âme-sœur d'Elisabeth, et quand William est tué par la créature, elle est condamnée à mort et exécutée, alors qu'il n'y a aucune preuve, et qu'Elisabeth, dans un premier temps, prend sa défense, et le père Frankenstein, qui est quand même un magistrat, ne fait rien pour simplement instiller le doute dans le jury. C'est une vie perdue, alors que Victor, lui, cherche à en créer, mais c'est à passer en perte et profit. Alors que, une fois de plus, c'est une domestique, justement.
C'est un dommage collatéral sans intérêt.
Voilà, sans intérêt. Et même Elisabeth, qui dans un premier temps est horrifiée, etc., se résigne finalement assez rapidement, durant le procès, pas après, durant le procès, à abandonner la défense de Justine.
Et ça nous amène aussi aux lacets, qui quand même sont en train de mourir de faim. On ne sait, alors qu'à côté, Victor Frankenstein et toute la famille a l'air de n'avoir aucun problème de ravitaillement, hein, et aucun problème pour le garder, ce ravitaillement. Et sans le monstre, il mourrait. D'ailleurs, lorsque ils se séparent, parce que ça y est, ils découvrent qui est leur bienfaiteur secret, on ne sait pas ce que deviennent les lacets. Et ça, c'est, est-ce qu'ils meurent de faim par bêtise et méchanceté? Ou est-ce qu'ils font ce qu'ont fait les Irlandais à l'époque ? Est-ce qu'ils ont immigré parce que c'était juste plus possible ?
Et ce corps monstrueux, du coup, va être la cristallisation de l'ensemble de la peur à la fois de Victor, mais aussi du reste des gens qui vont pouvoir le voir. Et du coup, on peut y voir ici la peur du bourgeois, de l'émancipation des prolétaires, avec la peur qui grandit au-delà de juste la vision du corps. Mais chez Victor, c'est aussi ses demandes d'émancipation. Le moment où le corps de cette créature, vue monstrueuse, correspond aux attentes de Victor, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles il l'a créé, ou pour lesquelles on pourrait dire il l'a embauché dans un monde capitaliste, ça lui va. Mais à partir du moment où il y a des demandes différentes, par exemple la demande de connaître l'amour, de créer lui-même pour lui, il y a une réelle peur de cette émancipation, au-delà de la peur du reste des protagonistes, qui va être sur la créature en elle-même. Victor n'en a pas peur en soi, il a peur du monde qui pourrait arriver si cette créature pouvait être émancipée. À votre avis,
là, moi, ce que ça m'évoquait, c'est le fait que le monstre demande à ce qu'il y ait un autre monstre créé pour lui. Et ça me ramène à quelque chose qu'on disait tout à l'heure à propos de l'esthétique et de ce qui est de l'ordre de ce dont le possédant a besoin que le possédé soit. Et là, du coup, je pense à ces femmes que nous sommes toutes, qui sommes quelque part créées pour être maigres, donc affamées, dont certains médecins, après l'accouchement, refont le point du mari. Ça parle à tout le monde, ou je donne une explication? Il y a des gens qui ne voient pas de quoi je parle, levez la main dans la salle. Ah, c'est une... Voilà, je vous raconte. C'est une belle saloperie. On va commencer par là. Lorsque les femmes accouchent, il arrive que le médecin s'arroge le droit de rajouter un point supplémentaire à l'entrée du vagin, histoire de resserrer l'entrée du vagin. Ce qui est censé donner plus de plaisir au monsieur, mais qui a pour résultat immédiat de rendre les rapports sexuels pénibles à la personne à qui on a fait ça. Quelque part, c'est Frankenstein, ça, aussi. Hein, et c'est, on construit le corps des femmes pour le plaisir des hommes. Et le plaisir qu'elles-mêmes pourraient ressentir dans ce cas-là, tout le monde s'en tape, mais alors glorieusement, le coquillard. Voilà, voilà ce que ça m'évoque, ce que tu disais.
Et tout à l'heure, tu parlais d'institution, de représentation de l'institution, plus que du prolétariat et de la bourgeoisie. En quoi, à ton avis, du coup, ce livre représente une institution matérialiste?
En quoi est-ce que le livre représente une institution?
Non, plutôt la dualité entre Victor et la créature.
Moi, c'était plutôt le monstre en lui-même, en fait. C'est-à-dire, enfin, ça rejoint un peu vaguement ce que Jeanne disait par rapport au. Enfin, en gros, j'ai un peu envie de partir presque directement dans le transhumanisme quand tu. Voilà, c'était un peu la porte ouverte, mais. Je mets ça de côté vite fait. Je crois que ce que le monstre peut représenter de manière symbolique, c'est ce qu'on crée avec toutes les bonnes intentions du monde comme étant quelque chose de, je sais pas si je peux parler de neutre, mais en fait si, c'est ça, le monstre à la base il est pas censé être dans le sens de l'être. Et de fait, il développe une personnalité propre avec des besoins propres et une motivation qui lui appartient. Et en ce sens-là, je lis le monstre comme une parabole de l'institution qui, dans l'analyse de des gens qui appartiennent à mon obédience politique, donc les anarchistes. Le désaccord que nous avons eu à la base avec le marxisme, c'est l'échec entre guillemets de Marx à comprendre comment fonctionnait un système en fait, et comment fonctionnait une institution, et donc comment fonctionne le monstre que l'on crée à la base pour servir, et qui en fait développe systématiquement une raison d'être qui lui appartient.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais Aymeric me contredira peut-être. Je pense que Marx avait parfaitement compris comment fonctionnaient les institutions et comment celles qu'il avait l'intention de mettre en place fonctionneraient. Mais a priori, il n'a pas vu effectivement l'emballement que pouvaient avoir certaines institutions dont il serait plus tard à la base. Je pense par exemple à l'Union soviétique telle qu'elle l'a fini par devenir, et à la bureaucratie soviétique. Enfin, il n'y a pas tellement besoin d'aller en Union soviétique pour trouver des bureaucraties abominables. Hein. Je fais partie de l'éducation nationale, je peux vous en parler si vous voulez.
Oui, ou en tout cas, de constater que Marx a aussi fourni son lot de monstres... du docteur Frankenstein, quoi. Évidemment, on peut parler de Staline, des crimes du stalinisme et de la dérive qu'a constitué l'Union soviétique. Mais là encore, je crois qu'il faut toujours ramener les révolutions contre-révolutions, rappeler que la Révolution française a eu son Bonaparte, que le Risorgimento italien a eu son Mussolini, et qu'il y a des allers-retours dans l'histoire qui sont assez souvent... Là, si on ne s'en préoccupe pas, mais en tout cas, oui, de la vision marxiste, moi je pense que Marx avait bien compris comment fonctionnaient les institutions, comment on pouvait faire système, et comment on avait pour mission de continuer d'essayer de le dépasser jusqu'à devenir des producteurs libres, ce en quoi, je crois, on n'a pas de différent avec les anarchistes. C'était plus sur la mise en œuvre, me semble-t-il.
Ouais, je sais pas, je pense que c'est peut-être une... tout repose, à mon sens, le clivage, en tout cas, c'est sur la volonté d'user ou non du monstre, en fait. Marx, je crois, avait, je ne pense pas me tromper en affirmant ça, était, on va dire, pour l'utilisation des institutions pour mener à une transition vers la liberté, tandis que les anarchistes ne veulent pas, en fait, utiliser le monstre et veulent l'abattre directement parce que part du principe que le monstre n'est pas contrôlable quoi qu'il arrive, en fait.
Oui, Marx reste quand même beaucoup dans la philosophie. Hein. L'homme de l'action, c'est Lénine. Et il y a quand même une différence entre les deux. Ce sur quoi je te rejoins, si on parle de Lénine, Marx, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ça me fait penser à la fin d'un roman récent d'Andy Weir. Andy Weir, le monsieur qui a écrit « Seul sur Mars » et dont la politique n'est quand même pas la meilleure compétence. Mais,
Seul sur Marx.
Seul sur Marx, absolument. Mais qui, avec son dernier roman, Artemisia, a fait une tentative d'analyse, on va dire, économique de la naissance et de la mort d'une colonie sur la Lune. Et à la fin du roman, que je ne vous dévoile pas, la personne qui est en charge de l'économie de la station lunaire dit à l'héroïne que c'est peut-être très cynique comme ça, mais que les civilisations naissent et meurent, et que là, ils sont en période de croissance et qu'elle a intérêt à en profiter. Mais qu'après, ça va tomber, forcément, parce que le monstre va surgir, parce que les rouages vont être de plus en plus nombreux et qu'à la fin des fins, ça va gripper. Et qu'il faudra recommencer. Et qui n'est pas inintéressant comme façon de le voir.
Mais du coup, si toute institution est monstrueuse, comment parvenir à cette liberté ? Comment bouleverser la force du monstre déjà en place sans en utiliser un ? C'est aussi la question dans ce cas-là, si l'institution est monstrueuse. Et du coup, est-ce que toute institution politique est forcément, par essence, monstrueuse.
Il serait intéressant aussi, puisqu'on parle d'anarchisme et de mouvements politiques déterminés, de voir ce qu'est Victor lui-même. C'est un individu, mais qui ne correspond pas à ce qu'est une conscience bourgeoise. Et il est quand même en rupture de banc avec toute sa famille. Il est viré de l'université, ce qui, entre parenthèses, fait qu'il n'est pas docteur. Il a été renvoyé avant d'obtenir son diplôme. Il refuse l'autoroute tracée par sa mère, qui était d'épouser Elisabeth Lavanza. Il se fâche avec Henri Clerval, qui tente de le ramener vers le droit chemin. Je ne pense pas que Victor soit l'expression archétypique de ce qu'est un bourgeois. Justement, ça me paraît être un ultra-individualiste. Alors, quelle connotation politique lui donner, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si elle existe à l'époque. C'est en tout cas un individu singulier, en gros égoïste aussi. Hein, et ça relève aussi de la dimension morale. C'est moralement quelqu'un de... Mais c'est certainement pas l'expression d'une conscience bourgeoise. Et donc, en ce sens-là, il est le premier à remettre en cause les institutions dans lesquelles il évolue. Il se fait virer de la fac, il est au banc de sa famille, et il finit seul, finalement non, puisqu'il y rejoint sa créature, dans l'endroit où il n'existe pas d'institution, où il n'existe pas de structure humaine, c'est le pôle. Donc c'est quelqu'un aussi. Alors par contre, Victor, par la suite, via le cinéma, va être justement refondu dans cette image de l'individu agissant pour la société, en bien ou en mal, mais agissant pour la société. Mais je ne pense pas que ce soit sa préoccupation au départ.
Je ne suis pas sûre que ce soit sa préoccupation, mais il a quand même des réflexes qui sont clairement liés à son éducation, qui, elle, est bourgeoise. Le rejet du monstre qu'il a immédiatement ne peut pas s'expliquer autrement. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est...
Puis il rejette Dieu, on l'a oublié, la religion.
Oui, c'est vrai, il rejette Dieu. Mais ça, c'est marxiste, quand même. Certes, du coup, lorsqu'il se retrouve à rejeter le monstre... Attends, tu m'as fait perdre mon... Attends, je repars en arrière, redéfilons. Donc, il rejette le monstre par réflexe, et c'est lui... en fait, qui est Prométhée dans cette histoire, il paraît. Mais en quoi est-ce qu'il nous apporte la foudre pour nous réchauffer ? Ça, c'est une question sur laquelle je me... Quel type de foudre apporte Victor Frankenstein dans cette histoire ?
Ben, s'il est Prométhée, il aurait dû l'être de cette nouvelle espèce en Amérique du Sud qui était la créature. D'accord. Et sa créature. entre parenthèses, l'imaginaire du 19e siècle et l'Amérique du Sud, c'est quelque chose, hein, parce qu'il y aurait dû avoir la colonie des créatures de Frankenstein, et dans une des deux versions du Horla, une quantité de...
Oui.
c'est très sympa, l'Amérique du Sud.
C'est un continent un peu inhabitable. Hein.
Tu parlais justement, pour montrer à quel point il est, Victor est rejeté, d'une pièce que tu as vue récemment, où justement même la mise en scène le montre.
Ah oui, oui. Alors déjà quand j'avais adapté Frankenstein pour France Culture, je m'étais rendu compte que, parce que adapter Mary Shelley en une heure, c'est pas évident, que certaines phrases de l'un peuvent être données, attribuées à l'autre. Par exemple, ce que dit Victor ou ce que dit la créature peut être indifféremment donné à l'un ou à l'autre. Et dans la mise en scène de Danny Boyle, qui est magnifique, le rôle de Victor et le rôle de la créature sont joués un jour sur deux par Benedict Cumberbatch ou Johnny Lee Miller. C'est-à-dire qu'ils alternent. Et ce qui est fascinant, c'est que la mise en scène est évidemment la même, mais qu'on aboutit à des créatures totalement différentes. Celle de Cumberbatch est massive, elle est pour le coup titanesque. Celle de Miller est beaucoup plus fragile, enfantine. Même dans leur naissance, c'est pas pareil. Celle de Cumberbatch est comme sous un choc galvanique, elle met longtemps à se redresser, tandis que celle de Miller pousse, commence par se sucer les orteils comme un bébé, puis grandit, c'est beaucoup plus poétique, etc. Et il y a des trouvailles audacieuses, parce qu'il fallait oser, de la part de Danny Boyle, notamment le fait que la famille Frankenstein, ce qui inclut Elisabeth Lavanza, est jouée par des acteurs noirs. Et donc c'est une lecture. Hein. Victor, en tant que suprématie blanche, qui est marginalisée par des gens qui, s'il n'y avait pas Victor... serait tout simplement en train de vivre. Et donc c'est une lecture qui est audacieuse mais intéressante, qui est que la science occidentale apporte le mal dans des gens qui par ailleurs ne seraient peut-être pas heureux mais ne seraient pas malheureux en tout cas. Et quitte à me répéter, la trouvaille géniale est que en faisant changer Cumberbatch et Miller de rôle chaque jour, on obtient justement, on est en plein dans le contexte, une espèce de dialectique entre dominant-dominé, maître et serviteur qui est assez impressionnante. Et le spectacle est de toute beauté.
Il y a quand même une grande question sur... Moi, je n'y vois pas un caractère moraliste à Frankenstein sur faut-il toucher à l'état de nature, mais la question est quand même posée. Puisqu'on transcende la mort et qu'on va recréer la vie à partir de la mort. Mais forcément, je t'entendais à l'instant, mais cette question-là, elle est posée. Et on a souvent, d'ailleurs, ces débats, et ils sont très prégnants aujourd'hui. Le retour à l'état de la nature est-il souhaitable ? Est-il le paradis perdu, le retour à Adam et Ève, quoi, un peu. Hein. Est-ce qu'il a existé? Eh ben, c'est une grande question qu'on n'a pas fini de se poser. Moi, je ne vois pas.
Évoqué dans le roman, Adam et Ève.
Ouais, oui, complètement. Ouais. Et je n'y vois pas un caractère moraliste. Je ne crois pas qu'on reproche, que la morale de l'histoire soit il ne faut pas toucher à l'état naturel, etc. Et à défaut de lecture très marxiste de tout ça, je suis un peu en retrait, moi, sur cette idée-là. Il y a surtout un miroir, pas si déformant que ça, de l'inhumanité des uns et de l'humanité des autres. C'est-à-dire le caractère monstrueux de Frankenstein et peut-être le miroir de ce qu'a voulu créer... Frankenstein, et en même temps c'est lui qui ramène l'humanité, qui me dit mais tu me fais des espoirs, je te demande l'amour, et que c'est dans cette dialectique là qui est finalement très humaine que se résout la problématique de l'histoire, à mon avis.
C'est sûr, et puis en plus si on repart en arrière dans le roman, son premier réflexe est quand même un réflexe d'altruisme lorsqu'il aide les lacets. Il ne se pose pas la question, il le fait, parce que c'est ce qui doit être fait. Même s'il laisse tomber après qu'on l'ait rejeté comme une vieille chaussette, son premier réflexe... Et c'est une vraie question à l'intérieur du roman, c'est-à-dire que le monstre Frankenstein est naturellement bon. C'est l'homme de Rousseau, quelque part. C'est la société, c'est-à-dire les lacets, en le rejetant, qui en font quelqu'un qui va être beaucoup plus problématique pour ses voisins, au point de tuer... comment il s'appelle? Là, ça y est, je l'ai sur le bout de la langue, lequel il tue, là. Le copain de Frankenstein, là. Voilà, celui-là. Mais avant, il n'y a rien qui détermine le monstre à devenir un meurtrier. Rien.
Et c'est sous le, en plus, la provocation de Clerval, qui est venu le tuer, lui.
Oui. Oui, oui, c'est de la légitime défense, en plus. Le problème, c'est qu'après, on tue quelqu'un d'autre pour faire payer ce meurtre. Et ça vient ajouter au fardeau du monstre Frankenstein. Mais à la base, c'est un être vivant profondément bon. Il me fait penser un peu... Alors, c'est plutôt ce dont je vais parler qui me fait penser à Frankenstein. C'est les soldats de la brigade fantôme de John Scalzi. C'est dans ce roman, John Scalzi parle de gens qui sont créés. Alors c'est totalement Frankenstein, hein. C'est une revisitation de Frankenstein. Donc dans ce roman, John Scalzi imagine qu'on crée des clones à partir d'ADN de gens morts et on les fait pousser à la taille adulte et on y injecte une conscience totalement vierge qui est dirigée dans un premier temps par un ami cerveau qui leur implante des règles, qui leur apprend des choses et leur implante des règles de conduite. Ce qui fait que ces soldats qui sont créés pour tuer tous les aliens qu'ils vont trouver sur leur passage sont en fait les gens les plus éthiques, les plus altruistes de tout le roman. Et ils ne sont pas adultes, en fait, dans leur tête. Ils se vivent comme des adultes de 3 ans. Et ils regardent les vrais nés, les vraies personnes, ceux qui ont eu, entre guillemets, sont le résultat d'un choix biologique de leurs parents, on va dire, ils les regardent avec stupéfaction commettre des actes abominables. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'on leur a inculqué dès la programmation. Et au final, à la fin des Brigades Fantômes, je me suis toujours demandé lesquels étaient les plus humains dans cette histoire.
Est-ce que c'est pas ça, du coup, finalement, l'aspect moraliste de... Parce que moi, je crois qu'il y a un aspect très moraliste dans Frankenstein, en tout cas la lecture...
Éthique, peut-être, plutôt.
Peut-être éthique.
Que moral.
Ok. Mmh. Oui, d'accord. Je restais sur moral, Jeanne. Parce qu'en fait, je crois que ce qu'on peut lire ce qui peut s'apparenter à une critique moraliste dans le livre, ça serait pas du tout du coup une critique du monstre, ni même une critique de la technique de la science en gros quoi, qui permet la naissance du monstre. C'est au contraire une critique de ce qu'est la société et de la manière dont en gros elle corrompt ou tord et irrémédiablement sur lui-même un être pur en fait à la base.
Oui, cela dit, je n'ai pas dit que je partageais cette vision idyllique de l'être humain. J'en élève trop des enfants pour savoir que le bon sauvage...
Après, chez Rousseau, la question n'est pas de la bonté du sauvage. La question est de la neutralité. Contrairement à Hobbes, qui pense que l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme, qu'il va forcément l'agresser par peur et par défi. Le sauvage chez Rousseau est neutre et sa première réaction face à un autre humain qui n'est pas en besoin d'aide ni agressant est tout simplement de ne rien faire, de partir. C'est en voyant quelqu'un agressif, il va le devenir aussi, et en voyant quelqu'un dans le besoin, va aller l'aider. Il n'est pas bon par nature, il est neutre, et c'est forcément le moment où la société existe que des relations de morale peuvent être adoptées sur ces actes. Mais sinon, le sauvage n'est absolument pas bon.
Tu as raison, j'ai caricaturé là, sur ce coup-là.
Et tout comme, à mon sens, la créature n'est pas bonne, elle n'est pas altruiste, en fait. Elle fait juste ce qui lui semble normal. Et du coup, on ne peut pas lui apposer une morale. C'est que il est, tout simplement, et essaye de diminuer la souffrance qu'il voit, tout simplement.
Mais elle ne peut pas être altruiste précisément parce qu'elle est unique, de toute façon.
Exactement.
Elle est singulière. Donc, déjà, le précepte « aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même », c'est mal barré parce qu'il n'y a aucune analogie, aucune correspondance. Donc c'est...
Et puis, il ne doit pas s'aimer beaucoup.
Voilà, il ne doit pas s'aimer beaucoup. C'est la fameuse phrase de Paul Valéry. Et si je ne m'aime pas, c'est une atroce plaisanterie. Oui, tout à fait. Mais justement, on peut rien objecter à la créature dès lors qu'elle est tenue à aucun devoir moral, puisqu'il n'y a aucune réciprocité à attendre, et on n'arrête pas de lui dire en plus. Donc elle est au-delà, du bien et du mal tel qu'on l'entend.
Cela étant, moi je persiste quand même à dire qu'il y a une forme d'altruisme, parce que la neutralité voudrait que, devant la fatalité, économiquement, il ne devrait rien faire. En tant que d'économie de sa personne. Or, il fait quelque chose. Il les voit mourir de faim et il les nourrit. Même si ça n'est pas sur des bases morales, même si ce n'est pas de la bonté, c'est quelque chose que la neutralité aurait dû lui dire que bon, ah oui, il se passe ça.
Ah. Mais du coup, pour toi, l'empathie est forcément quelque chose à mettre du côté de la moralité ? L'empathie peut être aussi quelque chose dans la neutralité, en fait. C'est par empathie qu'il va les aider. C'est pas par altruisme ou par bonté.
D'accord. Ah, je vois. Oui. Alors on est d'accord. Ouais.
En fait, déjà, de mettre altruisme et bonté sur le même niveau, c'est curieux, en réalité, parce qu'on a d'un côté une valeur morale et de l'autre, juste ce que les sciences sociales nous ont appris comme étant clairement une conséquence de notre comportement, de notre état d'être sociaux, en fait.
Est-ce que c'est les neurones miroirs qui...
Mais au final, cette question de l'altérité nous amène à presque l'aliénation dans laquelle Victor va arriver. C'est-à-dire qu'il crée quelque chose d'autre. Cette créature va peu à peu se créer un monde et du coup être au monde de façon différente à la création de base, et ce qui rejoint exactement la définition à la fois de l'aliénation du travailleur dans le capital de Marx, mais aussi la dialectique et du coup l'aliénation du maître dans la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel.
Non, mais moi, je ne suis pas marxiste, hein, donc je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je suis comme Patrick, je suis une anarche fantastique. Donc, voilà. J'ai aucune idée sur la question.
Elle repose ta question au ralenti.
Non,
moi, j'ai toujours le même problème sur... S'il devait absolument y avoir une vision marxiste de Frankenstein, au-delà des représentations et du jeu de représentation dont on a déjà parlé, ce serait de considérer combien Marx décrit l'accumulation, la baisse tendancielle du taux de profit et la catastrophe qui s'annonce avec un capitalisme effréné, et je crois, moi, qu'elle s'annonce toujours, en libérant des énergies dévastatrices considérables. Et là, on peut faire un parallèle tout à fait marxiste. Marx parle même de la capacité des capitalistes à détruire leur environnement. Et deuxièmement, il y a cette phrase, puisqu'on était sur tout un débat sur la morale, mais il y a cette phrase dans le manifeste du Parti communiste en disant que la bourgeoisie noierait tout dans les eaux glacées du calcul égoïste. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le comportement du docteur Frankenstein, qui est très égoïste, les eaux glacées du calcul égoïste, qui l'oppose, Marx, à l'héroïsme chevaleresque, au reste du féodalisme, qu'il a recouvré un certain nombre de valeurs morales. Donc il considère, disant cela, qu'il y a aussi une baisse tendancielle de la morale. Voilà. Je revenais un peu en arrière, mais ça m'évoquait ça, la discussion de tout à l'heure.
Ah, là où on peut aller, c'est au-delà de faire une lecture de marxiste de cette œuvre, on peut tout simplement voir le parallèle de l'implantation de la science, de la pensée rationnelle dans, dans, dans des domaines qui étaient, à l'époque, hautement romantiques. C'est-à-dire que, tant dans la littérature romantique, Shelley a implanté la pensée rationnelle, mais c'est aussi la démarche de Marx dans l'idéologie politique, d'implanter cette analyse et cette pensée rationnelle. Et ce qui est drôle à voir, c'est que en parallèle, c'est pourtant via, malgré l'analyse rationnelle de la politique, c'est pourtant le capitalisme qui derrière va prendre la pensée rationnelle comme méthode. Et en fait, c'est eux qui vont se servir du monstre que la science va pouvoir créer, avec quelqu'un comme Walter Lippmann au début du XXe siècle, Public Opinion, le fait de la création du consentement via toutes les neurosciences qui commencent à arriver, que Noam Chomsky après va
enfin, une prétention qui est quand même très idéologique, puisque la main visible du marché qui préside à cette idéologie, il n'y a quand même rien de moins scientifique, de moins rationnel. Vous inquiétez pas, il y a la main invisible.
Mais c'est réglé. C'est à mon sens la grande distinction. C'est que la pensée rationnelle marxiste a comme velléité l'analyse de la situation dans laquelle on est, et absolument pas la prétention de la prophétisation de quelque chose qui viendra après. C'est juste une analyse sans utilisation de la science comme moment délivrant. L'émancipation ne passe pas par la science, mais par la lutte, alors que le capital a une analyse du monde davantage fantaisiste, la main invisible du marché, quelque chose de beaucoup plus religieux, en fait.
Mais c'est ce que dit Shelley, de toute façon. Lorsqu'elle écrit Frankenstein, elle est en train de décrire la façon dont la société capitaliste sauvage du 19e siècle. Là, on parle du capitalisme sauvage du 21e, mais celui du 19e, c'était absolument merveilleux. Et nous y revenons tranquillement, joyeusement, au fur et à mesure que se détricotent tous nos acquis sociaux. Hein, lorsque le travail des enfants sera à nouveau autorisé, comme il semblerait qu'on va trouver des accommodements pour qu'à 16 ans, on travaille, je pense qu'on est exactement à ce point-là.
Et on estime toujours à 140 millions, si je ne me trompe pas, il ne faut jamais me croire quand je n'ai pas les chiffres sous les yeux, le nombre d'esclaves dans le monde. Hein. Donc,
dont certains sont en France.
Puis tu parlais
certains sont enfants.
De l'intrusion du discours rationnel dans le romantisme avec Shelley, mais ça va même très loin, parce que quand on peut s'interroger sur ce que dit Victor quand il parle à Elisabeth... au moment où il doit créer la créature de la créature. C'est-à-dire que si on prend toutes les phrases qui sont adressées à Elisabeth, donc c'est avant qu'il parte en Écosse, fabriquer la créature, il lui dit qu'elle est très belle plusieurs fois, qu'elle fera une magnifique épouse, etc. Mais à quoi pense Victor à ce moment-là? Est-ce qu'il s'adresse à Elisabeth ou est-ce qu'il est en train de chosifier Elisabeth, de objectiviser, en français c'est moche, d'objectaliser Elisabeth, d'en faire un objet, de penser à la femme qu'il va construire. Et donc l'intrusion du discours rationnel dans le romantisme va très loin et très fort de la part de Mary Shelley. Que voit-il dans sa fiancée en plus patiente, parce que ça fait des années qu'il doit l'épouser, qu'est-ce qu'il voit, à quoi il pense? Est-ce qu'il la voit en tant que sujet, en tant que conscience? Est-ce qu'il la voit en tant que chose? Et auquel cas, est-ce qu'il est vraiment à la marge de sa époque? Probablement pas. Est-ce qu'il la voit comme fiancée, comme épouse? Pour qui? La fiancée et l'épouse de qui à ce moment-là? Enfin, c'est très fort ce que dit Mary Shelley à ce moment-là.
En tout cas, pour un être vivant, elle l'a bien posé sur une étagère. Hein.
Aux yeux de qui, en fait, elle serait parfaite, elle serait...
Voilà,
aux yeux de qui. Et pourquoi ne pas prendre en compte les velléités de la créature même? Elle est belle pour lui, en fait. Et, tu allais dire quelque chose, Patrick? Alors, on a deux choix. On peut laisser parler un petit peu le public, si jamais il y a quelques questions. Et sinon, on peut continuer par ici. C'est toujours difficile, les premières questions du festival. N'hésitez pas. Sinon, on peut... On peut continuer là largement. Moi, je voulais revenir rapidement parce que du coup, on a dévié quand on a commencé à parler des institutions. On a la création des institutions et la création de ce monstre dans le domaine politique. Tu parlais, Émeric, du fait que les monstres institutionnels qui ont été créés à la suite du marxisme, mais j'avais l'impression que ce que Patrick soulevait, c'est que toute création d'institution allait provoquer des monstres et que l'objectif était davantage vers une émancipation de ces institutions. Je peux me tromper.
C'est pas nécessairement un monstre, mais en tout cas c'est quelque chose qui a une existence propre, une vie propre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à partir du moment où l'institution est créée, où l'institution existe, c'est quelque chose qui va se conduire comme un organisme vivant. Et en ce sens-là, ça m'intéressait le parallèle avec le monstre de Frankenstein. En gros, on aura beau mettre en place tous les garde-fous que l'on voudra, le prémisse même de l'institution, c'est le même prémisse que celui d'un être vivant, c'est-à-dire que c'est avant tout sa propre survie. Secondairement, la raison pour laquelle on l'aura créé. J'ai un petit extrait de texte là que je peux vous lire.
Avec grand plaisir.
Donc, derrière la façade de l'institution, ce qui se trame toujours est toujours autre chose que ce qu'elle prétend être. C'est même précisément ce dont elle prétendait avoir délivré le monde. La très humaine comédie de la coexistence des réseaux, de clans, de fidélités, d'intérêts, de lignées, de dynasties même. Une logique de lutte acharnée pour des territoires, des moyens, des titres misérables, de l'influence, des histoires de cul et de corne-cul, de vieilles amitiés et de haines recuites. Toute institution est, dans sa régularité même, le résultat d'un intense bricolage, et en tant qu'institution, du déni de ce bricolage. De même que l'Église n'a manifestement pas pour but de mener le troupeau humain au salut divin, mais de faire son propre statut dans le temps, la fonction alléguée d'une institution, c'est la légende du grand inquisiteur qui se rejoue à l'année. Son but véritable est de platement persister. Inutile de préciser ce qu'il faut broyer de corps et d'âme pour parvenir à ce résultat, et ce, jusque dans sa propre hiérarchie.
Et du coup, l'opposition avec la création d'institutions fortes dans un socialisme vers la libération et l'émancipation, que pourrait être le même objectif partagé, doit résonner chez toi, Émeric.
Non, mais moi, on peut se reconnaître dans ce texte sans aucun problème. Mais en bon marxiste, je pense qu'il y a la bataille des idées. Et il y a les infrastructures économiques, ce que Marx considère comme des infrastructures et des superstructures. Donc il y a la conquête de l'hégémonie culturelle autour d'une idée, et puis il y a la réalité des rapports de production. Mais je vais prendre un exemple très simple. La démocratie athénienne, on a pendant 30 ans peut-être le plus gros essor que l'humanité ait jamais connu en termes d'art, de science, dans tout un tas de domaines. Je ne suis pas en train de parler de perfection du tout, mais tout ça... sans qu'on s'intéresse à la technique et au rapport au travail et même aux techniques agricoles. Regardez, les Grecs n'ont rien découvert sur les techniques agricoles. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des esclaves. Et que petit à petit se développent les contradictions du propre système et que rapidement on arrive à Rome, on arrive à Spartacus qui se révolte et puis on arrive à la fin de la République romaine et on arrive à d'autres institutions. Bon, ça s'appelle le matérialisme historique. On passe du communisme au privatisme à l'esclavagisme puis au féodalisme. Et puis au capitalisme, et puis il faut qu'on invente demain ensemble. C'est pour ça qu'on est ici dans des utopiales, ça sert aussi peut-être à ça. Mais je crois que le point central, et je vais, pour pas être trop long, parce que là j'ai fait le capital en vitesse rapide, le point central, ça reste le rapport à la technique et au travail. L'esclave antique aujourd'hui, qu'est-ce que permet la révolution informationnelle sur nos vies? Comment les gains de productivité ont été pas du tout partagé et exploité sur les le taux de profit des entreprises dans les années 80 et comment aujourd'hui on est même en train de déposséder les gens de leur propre travail, qui devient à la fois un privilège parce qu'il est moins réparti, donc il est réservé à un certain nombre de personnes, il est réduit à une productivité immense. D'ailleurs, on se fait faire la leçon par le monde entier, mais je rappelle que les travailleurs français, belges et européens sont les plus productifs du monde, même en travaillant que 35 heures, mais avec une pression terrible sur les individus et tout un tas de gens qui ne travaillent pas, qui sont autour. Et je crois que c'est la grande question aujourd'hui, c'est qu'encore, comment on produit ? Quelle richesse on produit, à quelle fin on produit d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de produire tout et n'importe quoi pour vendre et gagner un max de thunes. Ça peut s'interroger dans l'histoire, on l'a déjà fait. Et je crois que c'est ça la question centrale, parce que quand je t'entends, et je finis là-dessus pour ne pas être trop long, les institutions ne sont pas morales. Donc on ne peut pas leur y a du mensonge dans tout ça, le petit texte que tu as écrit décrit parfaitement et avec beaucoup d'éloquence.
C'était pas de moi, je le précise.
Ouais, mais c'est bien quand même. C'était de qui d'ailleurs ?
C'est le comité invisible.
D'accord. Voilà, donc il y a ces mensonges-là, mais il y a la réalité de comment on produit et de comment on utilise la technique dans les phénomènes de production. Et je crois que c'est le cœur du sujet. Et c'est peut-être l'intuition géniale de Marie Shelley quand elle écrit France Jensen.
Alors moi, j'ai envie de parler d'un fun fact sur la démocratie athénienne. Juste avant Salamine, les Grecs découvrent une mine d'or. Et Salamine est une grande bataille navale qu'ils vont gagner contre toute espérance. Et pourquoi est-ce qu'ils vont la gagner ? Parce qu'à un moment, un général d'exception va convaincre ses concitoyens de renoncer aux bénéfices de la mine d'or pour construire les fameux rostres qui vont permettre à ces navires de flinguer la flotte perse. C'est-à-dire qu'on a affaire là à un comité, tous les citoyens grecs qui avaient le droit de voter ont voté d'être pauvres pour la survie de leur démocratie. Je trouve ça extraordinaire.
Excusez-moi, mais je ne peux pas me retenir quand j'entends parler de la démocratie athénienne, parce que c'est aussi un essor de la démocratie, parce que ceux qui servaient dans les bateaux étaient les plus pauvres, ceux qui ne pouvaient pas s'acheter la panoplie, donc l'équipement de l'hoplite, parce qu'il y a eu un temps dans ce monde où les plus riches payaient leur matériel pour aller se faire crever le bide en premier, ça existait. Et donc le fait d'investir sur la mer, c'est un essor de la démocratie, contrairement à l'investissement donc dans le matériel de l'hoplite, qui a lui-même, par cette égalité, le bouclier protégeant le flanc droit de mon voisin, créé l'égalité et probablement favorisé la démocratie, comme quoi l'évolution de la technique et le rapport productif, même à la guerre, est toujours au cœur des essors démocratiques et au cœur des phénomènes sociaux et au cœur peut-être des institutions qu'on construit.
Et on va devoir y aller, puisqu'il ne nous reste plus que 3 secondes. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce débat. Je vous indique que dans 15 minutes, il y aura une projection de Frankenstein en salle d'une, il me le semble. Et du coup, n'hésitez pas à les suivre. Voilà, merci beaucoup.